إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue ce soir la lecture et l'étude du livre de la prière, extrait de l'ouvrage Manhaj al-Salikin du Cheikh Abd al-Rahman ibn Nasser al-Si'di rahimahullah ta'ala. Nous avons vu dans les cours précédents les questions liées aux conditions de la prière. Et nous allons commencer ce soir, inshallah ta'ala, le chapitre que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé Chapitre de la description de la prière. La description de la prière, cela désigne la manière de faire la prière. Comment cette prière doit-elle être accomplie? Et les savants du fiqh, rahimahumullah ta'ala, ils abordent ce sujet, le sujet de la description de la prière, et autres parmi les adorations, car toute adoration pour être acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit impérativement remplir deux conditions. Ces deux conditions qui sont premièrement, al-ikhlas, la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que cette adoration lui soit vouée exclusivement, et la deuxième condition qui est al-mutaba'a, c'est-à-dire le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Que cet acte soit conforme à ce qu'a légiféré le messager sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne la sincérité, al-ikhlas, c'est ce dont on parle, notamment lors des cours de croyance et de tawhid. Et la sincérité, al-ikhlas, c'est le contraire de l'ishrak, le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala comme en priant par ostentation par exemple. Et al-mutaba'a, le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce dont on parle durant ces cours, durant les cours de fiqh, lorsque l'on apprend les règles de la prière, les règles de la purification. Ceci nous permet, bi'idhnillahi ta'ala, de concrétiser cette condition d'acceptation de notre œuvre, qui est le suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, afin de pouvoir accomplir cette adoration de la meilleure manière, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a légiféré. Donc on en déduit que celui qui prie, ou qui accomplit une autre adoration, en se conformant à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais qui fait cela sans sincérité. Par exemple, il fait cela par ostentation, pour rechercher les éloges des gens, leurs compliments. Alors, son adoration n'est pas acceptée. Comme le démontre le hadith al-Qudsi, rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon le sens, « Je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il m'associe autre que moi, je le délaisse lui et son association. » Donc même si la personne accomplit sa prière de la meilleure manière, mais qu'il donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, alors cet acte est rejeté, il n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est sincère pour Allah, qui ne recherche à travers sa prière que le fait de se rapprocher de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, d'obtenir sa miséricorde, son agrément, mais qui ne se conforme pas dans cette prière à ce qui est légiféré, alors celui-ci également, son adoration est rejetée. Comme le démontre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam muslim rahimahullah, d'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha, quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors celle-ci sera rejetée. Aussi sincère soit-il. Donc à partir de là, on comprend l'importance pour nous d'apprendre quelle est la manière légiférée de prier. Quelles sont mes obligations dans cette prière? Qu'est-ce qui est recommandé afin de pouvoir accomplir au mieux cette prière? Et c'est pour cela que les savants ont abordé ce sujet dans les livres de jurisprudence. D'autant plus, comme on l'a mentionné, la prière, c'est le deuxième pilier de l'islam. C'est le pilier le plus important après les deux attestations de foi. Il est donc obligatoire pour nous de donner de l'importance à la prière et de donner de l'importance à l'apprentissage des règles de la prière et notamment à la manière de prier. Comment accomplir cette prière afin de pouvoir l'accomplir de la meilleure manière en se conformant à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et plus tu te conformeras à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ta prière, plus la récompense que tu obtiendras de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala augmentera. Le shir, rahimahullah ta'ala, il a donc commencé en disant Yustahabbu an yatiya ilayha bisakinatin wa waqar. Il est recommandé qu'il s'y rende avec calme et sérénité. Il est recommandé pour le musulman, lorsqu'il se rend à la prière, qu'il soit calme et serein, qu'il s'y rende avec quiétude, sans précipitation, sans être perturbé ou agité, sans être distrait, mais en étant calme et serein. Ceci est prouvé par le hadith rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. D'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'on appelle à la prière, ne vous y rendez pas avec précipitation, mais faites preuve de quiétude. Ce que vous atteignez, priez-le, et ce que vous avez manqué, alors complétez-le. Donc la prière, selon les personnes et selon les situations, elle peut être accomplie de manière individuelle ou en commun. Et si la personne l'accomplit en commun, alors il est légiféré pour elle d'accomplir certaines choses avant de se rendre à cette prière en commun. Premièrement, il est légiféré pour toi de faire tes ablutions à ton domicile et de parfaire tes ablutions. Ensuite, tu te diriges vers la mosquée et tu sors de chez toi avec l'intention d'accomplir cette prière en commun. Et si tu fais cela, alors chaque pas que tu fais en direction de la prière est la cause pour t'élever en degré et expier un de tes péchés, et ce que le masjid soit proche ou lointain, comme cela est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Cela signifie donc que si ta maison se trouve loin de la mosquée, tu ne dois pas te plaindre de la distance que tu accomplis et que tu parcours pour te rendre à la prière. En effet, il y a certaines personnes qui peuvent se plaindre et se dire qu'il est fatigant de parcourir cette distance, que la mosquée est loin, et ainsi de suite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne à tous nos manquements et nos erreurs. Mais ce qui nous incombe, c'est d'être conscients lorsqu'on se rend à la prière que nous sommes en adoration. Et chaque pas que tu fais, si tu es sorti en ayant parfait tes ablutions, en ayant l'intention de te rendre à la mosquée, alors chaque pas que tu fais est une cause pour qu'Allah t'élève en degré. Allah subhanahu wa ta'ala t'élève par celui-ci en degré et t'expie un de tes péchés. Ceci est donc une récompense immense à ne pas négliger. Et comme l'a mentionné l'auteur, il convient, sur le chemin de la mosquée, lorsque l'on va pour accomplir la prière, de s'y rendre avec calme et sérénité. Avec calme et sérénité, c'est-à-dire que tu ne dois pas être agité dans ton comportement, mais également dans tes gestes et tes paroles. Et entre dans cela le fait de baisser le regard et de ne pas élever la voix. Ceci fait partie des choses qui sont visés par le calme et la sérénité demandés lorsque tu te rends à la mosquée. Et ce, car tu te rends dans ce lieu pour te tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il convient donc de t'y rendre de la meilleure manière. On sait tous que si une personne devait se rendre au palais d'un roi, ou alors à un rendez-vous auprès du patron d'une grande entreprise, ou autre personne semblable, alors on verrait cette personne se préparer avant de s'y rendre. Il prendra soin de regarder son apparence, de regarder son visage, ses vêtements. Et lorsqu'il se dirigera vers ce palais ou le lieu de ce rendez-vous, il s'y rendra avec calme et sérénité. Et ceci sera apparent sur lui, sur son comportement, sur sa manière d'agir, sa manière de marcher, et ainsi de suite. Alors que dire lorsque tu te rends dans une des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala pour te tenir debout devant ton Seigneur? Il n'y a pas de doute que ceci nécessite de notre part beaucoup plus de préparation, beaucoup plus de soins sur notre apparence, sur notre comportement et la manière de nous y rendre. Donc parmi les choses légiférées, le fait de ne pas s'empresser, comme il est venu dans le hadith, ne pas s'y rendre avec précipitation. Et dans une autre version du hadith, rapportée elle aussi par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous entendez l'iqama, le petit appel à la prière, c'est-à-dire que la prière elle commence, marchez en direction de la prière. Et faites preuve de calme et de sérénité, et ne vous précipitez pas. On voit donc l'erreur de ceux qui, lorsqu'ils entendent l'iqama, se mettent à courir dans la mosquée, ou sur le chemin de la mosquée. Ceci est une erreur et s'oppose à ce que nous a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il t'ordonne de t'y rendre avec calme et sérénité, non pas avec agitation en courant et en te précipitant. Mais tu marches en direction de la prière. Il n'y a pas de gêne à accélérer légèrement le pas, mais tu ne dois pas te précipiter et t'y rendre avec agitation. Ce que tu as atteint de la prière, tu le pries avec le groupe. Et ce que tu as manqué, tu le complèteras. Et ceci fait partie de la perfection du bon comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu te rends à la prière. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala nous mentionne ce qui est légiféré de faire une fois arrivé à la mosquée. Il dit « فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدِ قَالْ بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ » Et une fois qu'il entre à la mosquée, il dit « Au nom d'Allah, que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah. Ô Allah, pardonne-moi mes péchés et ouvre-moi les portes de ta miséricorde. » Puis il dit « وَيُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُمْنَ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ » Et il fait précéder son pied droit lorsqu'il entre à la mosquée. « وَالْيُسْرَ لِلْخُرُوجِ مِنْهُ » Et le pied gauche lorsqu'il en sort, lorsque tu sors de la mosquée. « وَيَقُولُ هَذَا الذِّكْرِ » Et il dit, cette invocation, celle que l'on vient de mentionner, « إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ » Sauf qu'il dit « Et ouvre-moi les portes de ta grâce. » C'est-à-dire à la place de dire « Ouvre-moi les portes de ta miséricorde », tu dis en sortant « Et ouvre-moi les portes de ta grâce. » Puis le shir dit « كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ » Comme cela est venu dans le hadith qu'ont rapporté Ahmed et Ibn Majah, rahimahum Allahu ta'ala. Donc lorsque tu entres à la mosquée, il est légiféré d'y entrer du pied droit. Comme on l'a mentionné dans un cours précédent, tout ce qui est honorable, il est légiféré pour cela de faire précéder la droite. Et ce d'après la généralité du hadith de Aisha radiyallahu ta'ala anha qui a dit « Il plaisait au prophète sallallahu alayhi wa sallam » de commencer par la droite lorsqu'il se chaussait dans sa purification et dans l'ensemble de ses affaires. Et on avait mentionné, si vous vous souvenez, la parole de l'Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala à ce sujet, qui avait mentionné différents exemples de choses pour lesquelles il est légiféré de commencer par la droite et de choses pour lesquelles il est légiféré de commencer par la gauche. Et entre dans cela le fait de faire précéder le pied droit lorsque l'on entre à la mosquée et de faire précéder le pied gauche lorsqu'on en sort. Et ceci est également rapporté de Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu. Il dit, il fait partie de la sunna, lorsque tu entres à la mosquée, de commencer par ton pied droit et lorsque tu en sors, de commencer par ton pied gauche. En effet, lorsque tu rentres à la mosquée, tu entres dans un des endroits les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il est venu dans le hadith authentique que parmi les lieux le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les mosquées. Car ce sont des lieux d'adoration dans lesquels on accomplit différentes œuvres pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc une chose honorable, une chose digne d'entrer à la mosquée, c'est pour cela que tu fais précéder ton pied droit. Et lorsque tu en sors, étant donné que tu sors de cet endroit digne, de cet endroit noble, tu fais alors précéder ton pied gauche. Et le shir rahimahullah ta'ala nous a mentionné cette invocation qui est légiférée à dire lorsque l'on entre et lorsque l'on sort de la mosquée. Et certaines parties de cette invocation ne sont pas confirmées authentiquement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, la tasmiya, le fait de dire bismillah, cela n'est pas confirmé authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que le fait de dire Allahumma ghfir li dhunubi, oh Allah, pardonne-moi mes péchés, cela n'est pas confirmé authentiquement. Et il se peut que certaines personnes disent, oui, mais on trouve la tasmiya dans le livre Les Invocations Authentiques, qui sont les invocations qui ont été jugées authentiques par le grand savant du hadith, l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Et effectivement, on retrouve l'invocation avec la tasmiya dans cet ouvrage. Et ce car le shir, rahimahullah ta'ala, avait dans un premier temps authentifié ce hadith. Puis il est revenu de cette authentification et l'a jugé comme faible. Et cela est confirmé par l'antériorité des livres et des ouvrages dans lesquels il avait authentifié auparavant ses hadiths. Donc ce qui est légiféré de dire lorsque tu entres à la mosquée, ce qui est confirmé authentiquement, c'est As-salatu was-salam ala rasulillah, Allahumma ftahli abwab rahmatik. Que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah. Ô Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Et lorsque tu en sors, tu dis As-salatu was-salam ala rasulillah, que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ô Allah, je te demande de ta grâce. Et cela, c'est ce qui est rapporté authentiquement dans le recueil authentique de l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Et il est venu dans d'autres hadiths authentiques que l'on rajoute en sortant également Allahumma simni min ash-shaytanir rajim. Ô Allah, protège-moi contre le diable maudit. Ceci sont donc les invocations qui sont légiférées de faire en entrant et en sortant de la mosquée. Et si tu médites sur ce qui est mentionné dans ces invocations, tu verras que lorsque tu entres, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'ouvrir les portes de sa miséricorde. Et lorsque tu en sors, tu lui demandes de sa grâce. Et les gens de science ont relevé ici une sagesse immense en cela. En effet, lorsque tu entres à la mosquée, tu entres pour t'occuper par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. T'occuper par les œuvres qui te rapprochent de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, comme la prière, le dhikr, la récitation du Coran, et également le fait d'attendre la prière. Et ainsi de suite parmi les œuvres qui sont accomplies dans les mosquées et qui sont des actes d'adoration. Et tout cela, tu l'accomplis pourquoi? Tu l'accomplis en recherchant, en espérant la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il est adéquat, lorsque tu entres à la mosquée, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'ouvrir les portes de sa miséricorde, de te faciliter l'accomplissement des actes qui te permettront d'obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis lorsque tu sors, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de sa grâce. Lorsque tu es entré à la mosquée, tu recherchais à accomplir les œuvres par lesquelles tu obtiens la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu en sors, qu'est-ce que tu vas faire? Il se peut que tu sois occupé par certaines occupations mondaines, comme le travail, la recherche de la subsistance et ainsi de suite. C'est donc pour cela que lorsque tu sors, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de sa grâce. Car sa grâce, les savants ont dit que cela vise, entre autres, les bienfaits mondains. Et entre dans cela la recherche de la subsistance licite. C'est donc pour cela que l'on implore la miséricorde lorsque l'on entre et la grâce lorsque l'on sort de la mosquée. Et après cela, tu demandes également à Allah subhanahu wa ta'ala de te protéger contre le diable maudit. Pourquoi? Car au cours de ton travail, au cours de tes ventes, de tes achats, de tes occupations mondaines, il est fort probable que le diable vienne te distraire, que le diable vienne te pousser à commettre certains interdits, qu'il te pousse à l'insouciance et ainsi de suite. Tu demandes donc à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver et te protéger contre son mal. Après cela, le shir rahimahullah ta'ala va commencer à nous décrire la prière. Car une fois que tu es entré à la mosquée, tu vas accomplir la prière. Soit tu vas accomplir la prière avec le groupe, si celle-ci a commencé, soit, si tu es en avance et que tu as le temps, tu accompliras certaines prières surrogatoires. Donc, une fois que tu es entré à la mosquée, il est légiféré pour toi d'accomplir ce que tu peux comme prière. S'il y a déjà eu l'adhan, que l'appel à la prière a été prononcé, alors il t'est possible d'accomplir la prière ratiba, la prière surrogatoire qui est liée à la prière obligatoire s'il y a, avec cette prière que tu es venu accomplir, une ratiba qui est légiférée. Si par exemple c'est la prière du fajr ou la prière du dhor, il y a une ratiba qui la précède et qui est légiférée donc. Il est légiféré pour toi à ce moment-là d'accomplir cette prière. Et s'il n'y a pas de ratiba qui est légiférée, comme pour le maghreb ou pour l'isha, alors, dans ce cas-là, il est légiféré de prier deux unités, comme cela est la sunna de manière générale entre l'adhan et l'iqama. Car entre chaque adhan et l'iqama, il y a une prière surrogatoire qui est légiférée. Et cette prière que tu accomplis lorsque tu entres à la mosquée, que ce soit la ratiba ou la prière légiférée entre l'adhan et l'iqama, celle-ci, elle compte comme prière de salutation de la mosquée. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il ne s'assoie pas avant d'avoir prié deux unités. Comme cela est rapporté par les imams, Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Mais est-ce que ces deux unités, c'est une prière indépendante qui est visée en elle-même? Les gens de science ont dit que ce n'est pas une prière indépendante qui est visée en elle-même, mais celle-ci, elle peut avoir lieu par toute autre prière que tu as accomplie. Si tu as accompli une ratiba, cela vaut aussi pour salutation de la mosquée. Si tu as accompli la prière sunna entre l'adhan et l'iqama, cela vaut aussi pour salutation de la mosquée. Si tu entres et que tu accomplis directement la prière obligatoire, alors tu auras accompli deux unités et cela suffit pour salutation de la mosquée. Donc après cela, une fois que tu as prié, il faut savoir que si la prière obligatoire ne commence pas tout de suite, il est légiféré pour toi de t'asseoir en attendant la prière. Et tu dois savoir que si tu es venu à la mosquée de cette manière, la manière que l'on a décrite, alors tu es en prière durant tout le temps où tu attends la prière. Même si l'imam vient quelque peu en retard, il faut savoir que tu es en adoration. Et je souligne cela car il y a certaines personnes, parfois, lorsqu'ils se rendent à la mosquée, si l'imam a quelques minutes de retard, ils s'impatientent. Il est pressé que l'imam arrive. Or, tu dois savoir que tu es sur le bien. Tant que tu attends la prière, tu es en prière, tu es en adoration, tu es récompensé pour cela. Et en plus de cela, les anges prient sur toi tant que tu es sur ton lieu de prière. Ceci est donc un mérite immense à ne pas mépriser. Donc le shir, rahimahullah ta'ala, il commence à nous décrire la prière et il dit « Fa'idha qama ila salah » Qala Allahu Akbar. Et lorsqu'il se lève pour prier, lorsqu'il se tient debout pour la prière, il dit Allahu Akbar. En effet, le premier pilier de la prière, c'est de se tenir debout. Et on a vu dans les conditions de la prière que l'on se tient debout en direction de la Qibla. Et pour entrer en prière, tu prononces cette parole, Allahu Akbar. Comme il est venu dans le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui avait mal fait sa prière, lorsque tu te lèves pour la prière, parfais tes ablutions, puis fais face à la Qibla et prononce le takbir, c'est-à-dire en disant Allahu Akbar. Et il est obligatoire de prononcer le takbir en ces termes. Et il n'y a pas d'autre parole qui est valide pour entrer en prière. Si par exemple une personne disait Allahu Kabir, nous dirons alors qu'il n'a pas prononcé le takbir qui est légiféré. Il n'est donc pas entré en prière. Mais pour entrer en prière, il est indispensable qu'il dise Allahu Akbar comme cela nous est rapporté. Et ce takbir, c'est ce qui te fait entrer dans ta prière. C'est-à-dire que une fois que tu l'as prononcé, tu es entré en prière en sacralisation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, la clé de la prière est la purification. Il est obligatoire de te purifier pour prier. Et son tahrim est le takbir. Son tahrim, c'est-à-dire la chose qui te fait entrer en sacralisation, par laquelle certaines choses qui sont avant la prière permises deviennent pour toi interdites. Comme par exemple le fait de boire, de parler ou de manger. Ceci sont des choses qui sont permises, mais une fois que tu es entré en prière, que tu as dit Allahu Akbar, ces choses deviennent interdites. Et l'interdiction, elle commence à partir du moment où tu as prononcé le takbir. Avant cela, bien sûr, il convient, comme on a dit, de faire preuve de calme, de sérénité et de quiétude, de ne pas se distraire avant la prière et se préparer à se concentrer pour celle-ci. Mais si la personne a besoin de parler avant le takbir, cela est permis, il n'y a pas de gêne en cela, car cela devient interdit seulement lorsque tu as prononcé le takbir. Il en est de même pour le fait de boire ou de manger. Et il n'est pas légiféré de prononcer autre chose que le takbir avant la prière. Ni la tasmiya, ni le fait de dire bismillah, ni al-isti'adha, en disant a'udhu billahi minash shaytanir rajim. En effet, il y a certaines personnes, avant de prier, ils disent a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillah, puis après, ils prononcent le takbir. Et ceci n'est pas rapporté. Ce qui est rapporté, comme cela est venu dans cet ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu fais face à la qibla et tu dis Allahu Akbar. Et également, il n'est pas légiféré de prononcer l'intention avant de dire le takbir. Car comme on l'a dit, l'intention, c'est une chose qui se trouve dans le cœur. C'est ta ferme volonté d'accomplir l'acte vers lequel tu te diriges. Et le fait de prononcer l'intention avec sa langue, ceci fait partie des innovations. Donc, tu entres en prière en disant Allahu Akbar. Et lorsque tu prononces cette parole, il te convient d'avoir conscience de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, qu'est-ce que cela veut dire? Allah est le plus grand. Rien n'est plus grand qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc si telle est la situation, il te convient de vider ton cœur et ton esprit de tout ce qui pourrait te distraire durant ta prière. Car rien n'est plus grand que ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu accomplis cette prière pour qui? Tu accomplis cette prière pour Allah, pour obtenir l'agrément d'Allah, pour obtenir la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour obtenir sa récompense et te préserver de son châtiment. Donc, il ne convient pas durant cette prière que tu sois distrait ou préoccupé par autre chose que cette prière. Tu as donc conscience de cela au moment où tu dis cette parole. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, dit « وَيَرْفَعُ يَدَيْ إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْ أَوْ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْ » Et il lève ses mains à hauteur de ses épaules ou à hauteur des lobes des oreilles. Le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous indique donc la manière de lever nos mains lorsque l'on prononce le takbir pour entrer en prière. Il est légiféré deux manières pour cela. Soit de les lever à hauteur des épaules, soit de les lever à hauteur des lobes des oreilles. Et lorsqu'on dit à hauteur des lobes des oreilles, c'est-à-dire que les mains sont au niveau des oreilles, non pas que les mains touchent les oreilles ou sont derrière les oreilles. Mais ce qui est visé, c'est simplement qu'elles soient à hauteur des oreilles. Ou bien à hauteur des épaules, ou bien à hauteur des oreilles. Il est légiféré de varier entre les deux, car ces deux manières sont rapportées de manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc légiféré d'accomplir cela de manière aléatoire, car en faisant cela, tu auras suivi la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui levait ses mains de ces deux manières. Et également, tu auras fait vivre sa sunna, et ainsi, tu seras une cause pour que sa sunna soit préservée et qu'elle soit toujours mise en pratique. Et également, la mise en pratique de cela, elle te permettra, bi'idhnillahi ta'ala, de ne pas oublier cette science que tu apprends. En effet, il arrive à nombre d'entre nous d'assister à des cours, d'écouter des conférences, de lire des livres, dans lesquels on prend connaissance de nombre de choses légiférées, de nombre de choses rapportées du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois même, il se peut que certains d'entre nous mémorisent certaines de ces choses. Toutefois, si cet apprentissage et cette mémorisation, ils ne sont pas suivis de la mise en pratique qui est la finalité visée par l'apprentissage de la science, alors il est fort probable que cette science soit oubliée. Contrairement à celui qui la met en pratique, il apprend ce qui est légiféré dans sa prière, il apprend ici qu'il y a deux manières de lever ses mains. Dans certaines de ses prières, il les lèvera d'une des manières légiférées, dans d'autres prières, il les lèvera de la seconde manière qui est légiférée. Et ainsi, il ne va pas oublier cette science, bi'idhnillahi ta'ala. Et également, cela te permet d'être plus concentré dans ta prière, de ne pas accomplir ces gestes de manière routinière ou de façon mécanique, à agir sans réfléchir. Mais si tu te rappelles qu'il y a plusieurs manières légiférées et que tu souhaites les mettre en pratique, tu devras alors être concentré pour cela, afin de pouvoir parfois lever tes mains à hauteur de tes épaules et parfois à hauteur de tes oreilles, et ainsi mettre en pratique la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est donc pas légiféré de lever les mains trop haut, au-dessus des oreilles par exemple, ni de le lever trop bas, en dessous des épaules ou à hauteur de la poitrine comme le font certaines personnes. Mais ce qui est légiféré, c'est de les lever ou bien à hauteur des épaules ou bien à hauteur des oreilles. Et certaines personnes pourraient demander: comment dois-je tenir mes mains au moment où je les lève, que ce soit pour le takbir ou les autres moments où cela est légiféré? La réponse est qu'il est rapporté que les mains doivent être tenues droites, les paumes en direction de la qibla, les doigts ni serrés ni écartés, c'est-à-dire légèrement ouverts. Cela est ce qui est rapporté dans les hadiths et ce qu'ont mentionné les gens de science. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, après nous avoir décrit la manière de laquelle il est légiféré de lever les mains, il nous indique les moments durant lesquels il est légiféré de le faire durant la prière. Et il dit « Fi arba'ati » Mawadi', il dit que cela est légiféré à quatre moments dans la prière. Premièrement, inda takbirati l'ihram. Premièrement, lors du takbir de sacralisation, le premier takbir de la prière. Deuxièmement, wa inda ruku', et lors de l'inclination. Troisièmement, wa inda raf'i minhu, et lorsque l'on se relève de l'inclination. Quatrièmement, wa inda al-qiyami min at-tashahhud al-awwal, et lorsque l'on se relève après le premier tashahhud, c'est-à-dire si la prière comporte plus de deux unités. Après le premier tashahhud, lorsque l'on se relève, on lèvera les mains à ce moment-là avec le takbir. Il dit, rahimahullah, كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Comme cela est confirmé dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, cela est confirmé dans les hadiths rapportés par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. D'après Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qui a dit: Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains à hauteur de ses épaules lorsqu'il commençait la prière, c'est-à-dire lors du takbir de sacralisation. Lorsqu'il prononçait le takbir pour l'inclination, et lorsqu'il levait sa tête de l'inclination. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, rapporte de Nafi' que Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, lorsqu'il entrait en prière, il faisait le takbir et il levait ses mains. Lorsqu'il s'inclinait, il levait ses mains. Lorsqu'il disait « Sami' Allahu liman hamida », il levait ses mains. Et lorsqu'il se levait après deux unités, il levait ses mains. Et Ibn Umar attribuer cela au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci sont donc les quatre moments durant lesquels il est légiféré de lever les mains durant la prière. Et ceci est ce qui a lieu dans chacune de tes prières. Et certains parmi les gens de science ont mentionné que de temps à autre, il est légiféré de les lever également pour les autres takbir. Et pour plus de détails à ce sujet, vous pouvez revenir au livre de Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, intitulé « La description de la prière du prophète » sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala nous dit « وَيَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى » Et il pose sa main droite sur sa main gauche. C'est-à-dire qu'après avoir levé tes mains, en prononçant le takbir, tu vas alors poser ta main droite sur ta main gauche. Comme cela est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, d'après Sahl ibn Sa'ad radiyallahu ta'ala anhu qui a dit « On ordonnait aux gens que l'homme pose sa main droite sur la gauche durant la prière. » On comprend donc qu'il n'est pas légiféré de prier les bras le long du corps. Et tes mains, où est-ce que tu dois les poser? Le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit « Fawqa surratihi, aw tahtaha, aw ala sadrihi. » Il dit « Au-dessus de son nombril, ou en dessous de celui-ci, ou sur sa poitrine. » Cette question fait partie des questions au sujet desquels les savants ont divergé. Et la sunna authentique à ce sujet est de poser ses mains sur sa poitrine. Car c'est cela qui est confirmé du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Wa'il radiyallahu ta'ala anhu qui a dit « J'ai prié avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il posait sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine. » Et certains parmi les gens de science ont mentionné, comme l'a mentionné l'auteur, qu'il est légiféré de poser les mains en dessous du nombril. Et le hadith rapporté à ce sujet est un hadith dont la chaîne de transmission est faible. Le mieux, et ce qui est le plus authentique, est donc de poser ses mains sur sa poitrine. Car c'est cela qui est venu dans les hadiths les plus authentiques à ce sujet. Toutefois, ce sujet ne doit pas être entre les musulmans un sujet de discorde, un sujet de dissension. Celui qui prie les bras le long du corps, bien qu'il n'ait pas mis en pratique la sunna, sa prière est valide, incha'Allah ta'ala. Celui qui prie en posant ses mains sous son nombril ou au-dessus de son nombril, sa prière est valide, incha'Allah ta'ala. Toutefois, ce qui est préférable pour le croyant, c'est de rechercher à accomplir dans sa prière ce qui est confirmé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas comme, on l'entend beaucoup ces temps-ci, chez nombre de prédicateurs, de se conformer obligatoirement à un madhab, à une école de jurisprudence, ou bien le madhab maliki, ou bien le madhab hanbali, et ainsi de suite. Mais nous, ce qui nous incombe, ce n'est pas de suivre un madhab. Ce qui nous est demandé, ce sur quoi on sera interrogé, ce n'est pas si l'on a suivi le madhab d'un tel ou d'un tel. Mais ce sur quoi on sera interrogé, c'est notre suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et si suivre un madhab était une obligation pour les gens de la masse, comme certaines personnes le soutiennent aujourd'hui, comment faisaient les musulmans avant que ce madhab soit établi? Comment les musulmans accomplissaient-ils leurs prières? Accomplissaient-ils leurs adorations, leurs pèlerinages, leurs jeûnes, leurs zakats, et ainsi de suite? Ceci est une des preuves les plus claires que suivre un madhab n'est pas une obligation. D'autant plus que le fait de rendre obligatoire le suivi d'un madhab pour les gens de la masse, cela revient à rendre obligatoire de manière absolue le suivi d'autres que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne cette question, Comme on l'a vu, c'est une question qui est sujette à divergence. Le plus juste et le plus authentique est de poser ses mains sur la poitrine, comme cela est confirmé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré tout, ceci ne doit pas être une cause de dissension et de discorde entre les musulmans. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala va commencer à mentionner les choses qu'il faut prononcer pour commencer la prière, comme l'invocation d'ouverture, l'isti'aza, la récitation de la Fatiha, etc. Et on verra cela, bi'idhnillahi ta'ala, dans le cours de demain. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.